claque comme une n'est pas morte.
Radio G.
101.5 FM.
Le Labo des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr.
Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce deuxième mix du Labo des Savoirs. Un programme chargé en ce mercredi 2 juin avec un nouvel épisode des scientifiques dans les oreilles ainsi que deux capsules de science sur la physique de l'écriture ainsi que sur la propagation des virus chez les cochons. Attrapez du gel, un verre de votre boisson préférée et installez-vous pour un mix de savoir bercé par la playlist de Prune. Rencontrez dans ce second épisode des scientifiques dans les oreilles, Céline Sarrazin et son invité Florian Berger, une coproduction de l'association nantaise ADBS et du Labo des Savoirs, soutenue par l'Université de Nantes.
Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
Je m'appelle Céline Sarrazin, je suis doctorante en biologie en deuxième année. Après ma licence, j'ai fait un master double compétence, donc à la fois recherche et également bioinformatique. Et aujourd'hui, je suis en deuxième année de doctorat et je fais de la recherche et de la bioinformatique.
Pourrais-tu expliquer plus précisément la thématique de recherche de ton laboratoire ?
Moi, je travaille au CRTI, donc c'est le centre de recherche en transplantation et en immunologie. Lors d'une transplantation, on va prendre en fait des traitements immunosuppresseurs qui vont éviter le rejet. Mais comme c'est pas parfait, en fait, moi j'étudie pendant ma thèse des cellules qu'on a déjà dans notre corps et qui vont avoir déjà des propriétés pour empêcher le rejet. Et donc je travaille principalement sur ces cellules pour trouver des solutions pour éviter le rejet en transplantation.
Et la thèse, c'est long, c'est un engagement. Qu'est-ce qui t'a amené à ce parcours-là ?
Au cours de mon cursus, en fait, je me suis dit que je voulais faire de la recherche, mais sur un sujet précis, donc sur la rétinite pigmentaire. Et puis les études et les différents stages que j'ai faits, je me suis rendu compte que c'était pas sur la rétine pigmentaire que je voulais travailler, mais j'ai trouvé mon bonheur en fait en recherche en transplantation. Enfin, comme quoi, même si on a une idée en tête de quelque chose de précis, avec les différentes expériences qu'on a au cours de nos études ou autres, on peut changer d'avis.
Des scientifiques dans les oreilles.
Bonjour Florian.
Bonjour Céline.
Donc Florian, tu es doctorant en première année au CRTI, donc le même laboratoire que moi. Et donc tu travailles sur un sujet de thèse qui est complètement différent, un axe émergent, donc plutôt la biologie du développement. Pour en être arrivé là, est-ce que tu peux me présenter en fait un peu ton parcours, quelles études tu as fait, quel master, etc.
Je m'appelle Florian Berger, je suis doctorant au CRTI, donc le centre de recherche en transplantation et immunologie à Nantes. Je suis un pur produit nantais, j'ai fait ma L1 à Nantes jusqu'au Master 2, Master 2 GGBS, donc très neuf entre guillemets, qui propose à la fois un peu de bioinfo et puis de la biologie humide. Et j'ai commencé ma thèse en septembre de cette année.
Avant ta thèse, est-ce que entre ton master et ta thèse, t'as fait autre chose ou t'es directement rentré en thèse ?
Alors en fait, techniquement, je devais commencer en février 2020 et bon, il y a eu le Covid. Donc en fait, avec mon futur directeur de thèse, on s'est dit, bon, ça sert à rien de commencer maintenant parce que je ne vais pas pouvoir faire de manip. Enfin, voilà, j'étais vraiment pas prioritaire depuis que je venais de commencer. Et en fait, ça tombait pas mal parce qu'il y avait un autre chef d'équipe qui était intéressé par mes compétences en bioinformatique. Et du coup, en fait, finalement, de novembre à août, j'ai fait des analyses bioinfo pour une autre équipe du labo, en fait. Et ça arrangeait tout le monde parce qu'en fait, je gaspillais pas de temps sur mon temps de thèse et je m'améliorais en bioinfo tout en même temps, quoi.
Donc, on peut un peu dire que c'était quand même pas une mauvaise expérience, du coup, de faire ce CDD
Absolument pas. Non, c'était pas prévu. Et c'était pas prévu que ça dure autant de temps, en fait. Mais ça a vraiment arrangé tout le monde parce que, du coup, à la fois, je pouvais faire des analyses bioinfo pour le groupe, pour l'autre groupe. Mon directeur de thèse, il était pas embêté à me faire attendre chez moi à rien faire. Et moi, du coup, à la fois, j'étais payé. Je faisais des analyses bioinfo, donc, qui me plaisaient bien. Et j'apprenais à la fois. Et, j'étais stimulé, quoi.
Pourquoi t'as voulu faire de la recherche, et particulièrement un doctorat? Est-ce que c'était quelque chose que tu voulais déjà faire longtemps à l'avance, ou genre c'est venu au fur et à mesure des études, ou
J'ai toujours été plus ou moins curieux. J'ai jamais été un très bon élève. Dans le top 5, 10 d'une classe, d'une promo, j'ai jamais été un très bon élève. J'ai jamais aimé apprendre des choses qui m'intéressaient pas, donc je suis pas un très bon élève. Mais j'ai toujours été curieux, et la recherche, ça me plaît pas mal. Le doctorat, c'était un peu la suite logique. Après, peut-être c'était ma conception de la recherche. Donc, peut-être que c'était erroné. C'est peut-être pas forcément du tout une étape obligatoire, mais je crois que c'était pas mal parce que ça faisait la liaison entre la vie d'élève et la vie de chercheur à l'école, entre guillemets, parce que la fac, c'est encore l'école. Hein. On nous apprend à apprendre et un petit peu à réfléchir, mais pas tant que ça. Et on n'est pas, confronté à l'échec, on n'est pas confronté à émettre des. Du moins pas autant qu'au labo, on n'est pas confronté à émettre des hypothèses, à vérifier ces hypothèses, à mettre en place des protocoles qui permettent de répondre à ces hypothèses-là, etc. T'es pas laissé à toi-même, on te prend un peu encore par la main.
Oui, donc c'était vraiment à la suite de ce que t'attendais de ces études-là et pour la suite de ta carrière.
Donc nous, en fait, on s'intéresse particulièrement au développement embryonnaire, en fait, et à l'apport du spermatozoïde dans ce développement embryonnaire. Donc en fait, le spermatozoïde va apporter plus que le simple génome paternel. Il va apporter avec lui un programme qui va permettre le bon développement de l'embryon. Et en fait, si ce programme il est altéré, on s'est rendu compte que l'embryon il ne se développera pas normalement. L'idée derrière, c'est de voir en fait si on ne peut pas corriger ce programme derrière pour ensuite l'appliquer chez l'homme.
Et donc du coup, tu travailles sur la souris, le rat ou un autre modèle?
C'est un peu plus exotique. C'est le Xenopus laevis. En fait, c'est une espèce de grenouille d'Afrique du Sud.
Tu dis du coup ces marques qui sont sur l'ADN des petites grenouilles, et après du coup c'est pour appliquer chez l'homme, ou toi tu t'occupes pas du tout de cette partie appliquée à l'homme, ou c'est vraiment fondamental? Et
pour l'instant, ça reste extrêmement fondamental parce qu'il nous faut plus de pistes, en fait, et mieux comprendre les mécanismes chez un organisme plus simple, en fait, et ensuite essayer de voir en fait si chez l'homme ça se passe de la même manière. Il y a des chances pour que ça se passe de la même manière, mais le programme risque d'être différent, etc. Enfin, mais oui, l'idée ensuite, c'est d'aller voir chez l'homme. En 3 ans, j'aurais pas le temps d'avoir pas chez l'homme.
Oui, en fait, c'est ça, c'est ton sujet. C'est vraiment fondamental, comprendre chez la grenouille. Et après, ça ouvre la porte à d'autres sujets de thèse ou d'autres projets de recherche beaucoup plus vastes. Mais donc, du coup, en fait, ce sujet qui est quand même assez différent de transplantation et immunologie, comment en fait il s'intègre dans le laboratoire dans lequel on travaille tous les deux?
Vu que c'est un sujet extrêmement fondamental, le programme en fait épigénétique de régulation des gènes, en fait, il est commun à toutes les cellules, en fait. Il a lieu dans toutes les cellules. Et chaque cellule a ce programme-là, et que ce soit un lymphocyte ou un spermatozoïde, c'est toujours intéressant de comprendre comment ces marques-là elles sont transmises. À côté de ça, le Xenob, ça peut être aussi un bon modèle pour les autres équipes de notre labo, en fait. Avant de passer, par exemple, à un mammifère comme la souris ou le rat, en fait, ça peut être intéressant de travailler chez le Xenob pour étudier, par exemple, des maladies génétiques, etc.
Et donc, ce sujet de recherche, en fait, il est associé à un groupe qui est un groupe émergent, ou c'est quelque chose qui est bien ancré dans le laboratoire, ou c'est quelque chose de nouveau? Vous situez comment, en fait, dans le laboratoire par rapport à tout ça?
Au CERTI, l'axe de recherche sur l'embryogenèse, il est relativement nouveau, en fait, dans la vie du laboratoire. On est le second groupe, en fait, à travailler sur l'embryogenèse principalement. C'est vrai que c'est plutôt immunotransplantation, voilà. Mon directeur de thèse, il est arrivé récemment, ça va faire un an et demi déjà qu'il est sur Nantes. Voilà, il essaie de mettre en place son groupe, et puis comment ça se passe au CRTI, quoi.
enfin pour les manips, comme tu travailles sur le Xenop, donc une petite grenouille, est-ce que c'est pas un frein par rapport à travailler sur des souris ou rats qui sont beaucoup plus étudiés, donc vous êtes peut-être un peu plus limité, ou ça va, c'est
Alors pour être honnête, j'ai jamais vu de grenouille entière pour l'instant. Enfin, on n'a pas d'animalerie grenouille en fait qui est capable d'accueillir notre espèce d'étude en fait sur Nantes. Donc pour l'instant en fait, on reçoit du matériel biologique déjà dissocié de Rennes, ou maintenant là c'est de Portsmouth en Angleterre.
Et donc toi qui as fait un peu du coup avant de l'immunologie, donc avec ton CDD qui était vraiment plutôt orienté bioinformatique et aujourd'hui maintenant plutôt embryogenèse, etc. Est-ce que t'as une préférence, ou genre t'aimes les deux, ou t'aimerais bien combiner les deux?
Finalement en fait c'est toujours un peu les mêmes mécanismes derrière. Moi ce qui m'intéresse vraiment c'est d'étudier la régulation de la transcription en fait des gènes, etc. Enfin je trouve ça absolument fou. Si petites choses pour entraîner de si grandes conséquences, en fait. Seul le contexte change et les mécanismes restent globalement les mêmes. Alors, c'est pas toujours les mêmes gènes, c'est pas les mêmes protéines qui sont impliquées, mais c'est vraiment ça qui me passionne. Et que ce soit de la immuno ou du développement, peu importe. Mais...
Toi, au labo, comment ton temps il est un peu découpé? Est-ce que tu peux nous présenter une journée type quand tu vas au labo ou en télétravail? Comment est déroulé ton temps globalement?
J'ai pas tellement de journée type. Ça va vraiment dépendre de la manip que j'ai à faire. Déjà, si j'ai une manip à faire, parce que bon, j'ai pas au labo en fait, mais si j'ai à venir au labo, ça peut être fait en une heure et demie, deux heures, ou si c'est vraiment une grosse manip, bah, je reste tard, et voilà, ça peut être une journée très dense où je grignote un sandwich à midi. Ou, bon, ça dépend vraiment, il n'y a pas de journée type en fait, il n'y a vraiment pas de journée type.
Quand tu fais pas des manips ou du coup tu restes soit à ton bureau, soit en télétravail chez toi, qu'est-ce que tu fais? T'analyses tes résultats? Tu reprépares d'autres manips ou...
Je fais encore un peu de bioinfo, donc pour relancer une équipe pour laquelle j'avais travaillé. Et puis là, on a aussi des data à analyser. Du coup, je fais pas mal de bioinfo quand même. Vu que je suis le seul étudiant dans mon groupe à faire des manips, je fais principalement des manips. Et il y a une Master 2 qui nous a rejoint récemment, donc tout seul à faire des manips.
Et est-ce que du coup cette double compétence bioinformatique, elle te sert, mais est-ce que ça t'apporte un plus, ou parfois ça peut te faire perdre du temps par rapport, comme tu dis, tu es le seul à faire des manips, donc si tu fais aussi de la bioinfo à côté, est-ce que ça te perd du temps, ou au contraire du coup ça t'ouvre plus d'opportunités ou
Il y a un moment dans un projet de recherche, on est amené à faire du séquençage. Je trouve ça clé de comprendre déjà ce qui est fait en termes d'analyse bioinformatique. Et enfin, si j'avais été biologiste pur, j'aurais pas aimé que quelqu'un d'autre fasse les analyses à ma place. Je préfère mener le projet de A à Z, même si je suis pas compétent, mais pas expert à 100%, parce que voilà, la bioinfo, c'était relativement nouveau pour moi, mais je trouve ça super intéressant aussi de mener ça de mon côté. Et après, bon, j'échange avec d'autres doctorants, etc. Enfin, je suis pas tout seul non plus. Enfin, je trouve que la double casquette est vraiment intéressante. Mais je me serais pas vu faire que de la bioinfo non plus. Enfin, mener le projet de A à Z, je trouve ça vraiment intéressant. Enfin, c'est vraiment ça qui me plaît. C'est comme les manips. Enfin, des fois, ça a marché du premier coup, c'est super cool et tout. Enfin, et des fois, ça a pas marché du premier coup et c'est extrêmement frustrant. Mais bon, c'est la vie. Hein. Ça fait partie du jeu de la recherche. Il faut prendre son mal en patience et être patient.
C'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Dans ton projet de recherche, au final, du coup, qu'est-ce que tu vas aimer le plus? Est-ce que c'est la globalité, vraiment, ton projet, ou c'est plus ta manip, elle se passe super bien, t'es trop content, ou c'est plutôt quand tu vas rédiger des choses ou présenter des projets? Enfin, qu'est-ce que t'aimes le plus, toi, dans ton projet de recherche et dans la recherche que tu mènes aujourd'hui?
Tu vas faire l'expérience une fois, ça va foirer parce que c'est la première fois, tu stresses, t'as pas le réactif, tu l'as zappé, tu l'as pas sorti du congèle ou n'importe. Enfin, voilà, il va se passer quelque chose qui n'était pas prévu. Puis la deuxième fois, bon, tu vas galérer un peu, mais tu vas avoir des résultats cool. La troisième fois, ça va très bien se passer, etc. Et en fait, juste avoir des résultats, même s'ils vont pas dans le sens de l'hypothèse que tu émettais au départ, c'est vachement satisfaisant de dire « Ah, ce coup-ci, j'ai réussi tranquille et il n'y a rien qui s'est mal passé, en fait. »
Pour toi, Florian, j'ai une dernière question. Si tu devais donner juste un seul conseil à tous ceux qui envisagent de faire de la recherche, que ce soit en doctorat ou en tant qu'ingénieur ou en tant que technicien de laboratoire ou autre, qu'est-ce que ça serait ?
Faire des stages, contacter des gens et voir ce que c'est la recherche, en fait, parce que c'est le meilleur moyen, en fait, de se rendre compte si ça va te plaire ou pas, en fait. Contacter des gens, en fait, des laboratoires, pour si la personne qui m'écoute, elle est encore en études, etc., demander de l'aide et envoyer des mails ou des demandes de stage.
Ouais, d'essayer en fait, d'essayer un peu de toucher à tout et voir ce qui te plaît le plus et ensuite du coup...
Être le plus curieux possible et ouais, juste entrouvrir la porte déjà, même si la personne elle est qu'en première année licence, en BTS, etc. Enfin, même si c'est qu'un stage d'observation, etc. Juste se rendre compte, parler avec des gens qui font de la recherche, ça peut être cool parce que bon, ça peut être très exigeant et ça peut ne pas plaire à tout le monde en fait.
Enfin, je pense que c'est un bon conseil que de venir rentrer dans un laboratoire et voir comment ça se passe et se rendre compte en fait de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas pour essayer vraiment de se spécifier dans les tâches qu'on apprécie plus.
Retour dans le mix du Labo 2e volume après ce son de Jaromil Sabor, Astral Army. On retourne dans le passé avec Maxime Labatte qui est allé interviewer Anna Philippot, doctorante au Muséum National d'Histoire Naturelle sur le développement des capacités motrices de nos mains qui servent notamment à écrire.
Le son des sciences. Au Labo des Savoirs.
Vous êtes en ce moment en thèse au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Vous êtes dans quel laboratoire ?
C'est ça. Je suis dans le département qui s'appelle Mécadev et dans le laboratoire qui s'appelle Fenévol plus particulièrement.
Vous bossez sur quel sujet là pendant votre thèse ?
Alors moi je travaille sur les prérequis neuromoteurs à l'écriture chez l'enfant, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut à un enfant en termes de maturité neurologique et biomécanique, donc on va dire musculaire, pour apprendre à écrire.
Du coup comment ce sujet qui a l'air d'être un sujet de sciences de l'éducation peut-être ou de médecine presque, de sciences cognitives, se retrouve dans un laboratoire de biomécanique ?
Alors, c'est un sujet qui est hautement interdisciplinaire. D'ailleurs, je dépends aussi de l'INSERM dans un laboratoire qui s'appelle Neurodéveloppement des apprentissages et également du Centre de recherche interdisciplinaire à Paris. Et donc, ma thèse est vraiment à la croisée entre la biomécanique, le neurodéveloppement, mais aussi un petit peu de d'éthologie, de morphologie et de physique, puisque je développe des capteurs de mouvement et donc des nouveaux outils technologiques pour étudier le mouvement chez l'enfant.
Et donc ce que vous étudiez, c'est en partie le cerveau, comment le cerveau mature pour pouvoir être prêt au moment où l'écriture va lui être enseignée, mais aussi beaucoup la main.
Oui, tout à fait. Et le lien entre la commande motrice et la commande cérébrale de la commande motrice.
Pourquoi ce geste de l'écriture vous intéresse particulièrement plus que les autres gestes qui sont acquis par l'enfant à cette période-là ?
Alors, tout d'abord parce que l'écriture, c'est quand même un apprentissage qui est long et coûteux pour les enfants, qui est très important pour la réussite scolaire de l'enfant, mais aussi la réussite professionnelle de tout individu. Et également parce qu'on considère que c'est un des apprentissages moteurs les plus complexes chez l'humain. Voilà, c'est très intéressant d'étudier ce geste-là.
Oui, par rapport à la marche ou à d'autres gestes moteurs, c'est vraiment particulièrement complexe d'écrire d'un point de vue psychomoteur ?
Alors oui, parce que finalement, ça demande à la fois un recrutement très précis des muscles, mais aussi des tendons, des ligaments, de toutes les articulations. Ça demande aussi beaucoup de compétences sensorielles, comme la vision, et ça demande aussi une maturation assez importante du cerveau pour pouvoir commander ce geste d'écriture. Ça appelle aussi à des fonctions cognitives comme la mémoire, puisque avant de pouvoir écrire, simplement faire le geste qui est déjà compliqué, il faut aussi savoir ce qu'on écrit. Donc voilà, il faut avoir la connaissance de la forme des lettres, le langage. Donc voilà, c'est vraiment un geste, mais qui demande aussi beaucoup de fonctions cognitives et beaucoup d'autres compétences.
Est-ce que vous arrivez à avoir des comparaisons ? J'imagine que c'est assez unique dans le monde animal. Vous replacez bien sûr l'être humain dans l'évolution et dans le monde animal. Oui. La main est vraiment quelque chose d'unique. Ça reste quelque chose d'unique chez l'homme. On sait que les propres de l'homme ont été beaucoup recherchés et beaucoup effacés au fur et à mesure. Parce que, voilà, les grands singes et d'autres animaux d'ailleurs ont trusté un peu toutes nos facultés essentielles. La main, pour vous, ça reste là, en l'étudiant, quelque chose d'assez unique ?
Oui, alors la main en tant que telle, disons que la frontière entre la main humaine et la main d'autres espèces devient de plus en plus mince, puisque voilà, on sait que par exemple, même les loutres peuvent utiliser des outils et se servent de petites pierres pour ouvrir des coquillages. Les chimpanzés, bien sûr, les grands singes, ça c'est évident. Donc la frontière est de plus en plus mince. En revanche, c'est vrai qu'une des spécificités qui demeure chez l'humain, c'est effectivement l'écriture.
Quel processus technique vous mettez en place pour expérimenter et réussir à faire émerger les principales prérequis à l'écriture ?
Oui, alors dans ma thèse, j'utilise pour pouvoir notamment étudier la maturation cérébrale, on utilise des tests psychomoteurs qui sont standardisés et normés, qui nous permettent de mesurer la maturation cérébrale. Et pour étudier le geste d'écriture, j'utilise un stylo avec qu'on est en train de construire notamment au CRI, qui est composé de capteurs. Enfin voilà, avec beaucoup de capteurs et qui permet d'enregistrer notamment tous les paramètres d'écriture, notamment la vitesse, l'accélération.
Pour pouvoir comparer les différents enfants et les différents
âges. Tout à fait, voilà. Et pour pouvoir faire des liens entre justement la maturation cérébrale, la maturation de la main et le fonctionnement biomécanique de la main et la production écrite.
Vous avez commencé votre thèse il y a combien de temps ?
J'ai commencé ma thèse le 1er novembre.
Et avant ça, vous faisiez quoi ?
Avant ça, j'étais en master 2 d'éthologie.
Vous avez une formation de psychomotricienne aussi ?
Tout à fait. Donc, et encore avant ça, j'ai travaillé dans un hôpital pour enfants, dans un service de pédopsychiatrie.
Est-ce que du coup, les troubles qui peuvent être associés à l'écriture ou à la lecture sont aussi des sujets qui sont l'un des enjeux de votre thèse, pouvoir mieux identifier les moments où ça se passe différemment chez certains enfants ?
Tout à fait, exactement. Un des objectifs de ma thèse, c'est aussi de mieux comprendre le fonctionnement et on appelle ça la trajectoire développementale de l'écriture, du geste d'écriture chez l'enfant et de tous ces processus qui sous-tendent le geste d'écriture. pour ensuite pouvoir mieux comprendre les troubles, les difficultés comme les dysgraphies, les dyspraxies, et pouvoir aussi mieux les détecter, mieux les dépister et mieux y remédier.
Et puis peut-être mieux préparer les enfants à l'écriture. C'est vrai que c'est un processus oui. très complexe dont vous parliez et dont les enfants sont un petit peu, en quelques années, ils sont mis au contact très intensivement. La grande section de maternelle et surtout le CP est une espèce de passage en force de l'écriture dans le cerveau des enfants. Il y a un travail qui est fait assez énorme en maternelle pour entraîner la main déjà. Oui. C'est quel genre d'exercices qui sont faits aujourd'hui pour préparer à l'écriture ?
On observe beaucoup de tâches papier-crayon, c'est-à-dire que les enfants vont faire des boucles à la peinture ou avec toutes sortes de supports. Il y a aussi des enseignants qui mettent en place des activités comme de la pâte à modeler ou des choses qui peuvent permettre de muscler la main. Et justement, effectivement, par exemple, dans les pays d'Amérique du Nord, ils testent beaucoup de programmes de préparation à l'écriture de manière scientifique en regardant quelles sont les activités qui permettent une meilleure préparation ensuite à long terme à l'écriture par rapport à d'autres. Et effectivement, mes résultats permettraient aussi de pouvoir un peu regarder ces paramètres-là, mais aussi pourquoi pas par la suite de penser à des programmes de préparation à l'écriture plus adaptés aux enfants.
Oui, parce que dans le labo dans lequel vous êtes, un des intérêts, c'est que vous ne regardez pas uniquement ce que fait le cerveau, mais vraiment ce que fait la main musculairement. D'une certaine manière, c'est pas juste réussir à concevoir l'écriture et tout ça, mais vraiment réussir physiquement à ce que la main le fasse, un petit peu comme les exercices de piano sont là pour muscler la main.
C'est ça, tout à fait. Et d'ailleurs, ce qui me paraît intéressant aussi, c'est que souvent, on s'intéresse beaucoup à la production de l'écriture, c'est-à-dire qu'on regarde le résultat fini. Donc, on juge un petit peu voir si l'enfant il écrit bien ou pas, mais on se demande peu comment il écrit. C'est-à-dire que voilà, si l'écriture est bonne, on va s'en contenter et on va moins regarder si, par exemple, il écrit bien, mais ça lui demande un effort très important, ou alors au bout d'un moment, il a très mal à la main. Voilà, donc moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est de vraiment regarder ça d'un point de vue très global. C'est sûrement mon passé de psychomotricienne qui avait une approche très globale de la personne qui fait ça. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement le résultat final, c'est aussi tout le mécanisme qui sous-tend ce résultat final.
Bon, bah, bon courage pour poursuivre vos recherches. Et puis, peut-être à bientôt dans une émission du Labo des Savoirs en bonne et due forme sur la naissance de l'écriture.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Dans le labo, en compagnie de Jorik avec Cosmos. Nouveau capsule de science avec Hélène Cécilia, questionnant Georges Saad, doctorant en virologie et immunologie porcine dans l'unité de recherche Biopar, INRAE, Oniris.
éveillez vos neurones. Vous êtes bien. Vous êtes au Labo des Savoirs.
Aujourd'hui, nous sommes avec Georges Saadé, vétérinaire de formation et désormais en dernière année de doctorat en virologie et immunologie porcine. Il est rattaché à l'unité mixte de recherche INRAE et ONIRIS, et l'école vétérinaire de Nantes. Et il vient aujourd'hui nous parler un peu de ses recherches. Bonjour Georges.
Bonjour Hélène.
Donc j'ai dit que tu étais un doctorant en immunologie et virologie porcine, donc c'est-à-dire que tu t'intéresses à la santé des porcs, et en particulier à leurs maladies respiratoires, c'est bien ça ?
Bien ça.
Et donc ces maladies, est-ce qu'elles sont courantes dans les élevages ? Ça a quel genre d'impact ? Pourquoi il faut s'en soucier en fait ?
En fait, de plus en plus, on s'intéresse à la santé porcine parce que c'est une espèce qui devient de plus en plus importante. Tout d'abord parce que la viande de porc, c'est la viande la plus produite en France, notamment dans les régions Bretagne et Corse. Et selon les statistiques de la FAO, c'est la viande la plus consommée en Europe. D'où l'importance vraiment de s'occuper de cette espèce. Notez aussi qu'il s'agit vraiment d'un modèle qui s'approche beaucoup de l'homme. L'alimentation des porcs, c'est des omnivores, comme les êtres humains. Leur durée de vie, elle est plus longue que les rongeurs, donc on s'intéresse à faire des expérimentations. Et ne pas oublier que leur anatomie aussi s'approche beaucoup de l'anatomie humaine. Pas mal de travaux qui se font sur les xénotransplantations de quelques organes porcs chez l'être humain. Et concernant les infections virales, la grippe porcine, la fameuse grippe porcine, l'influenza, ça présente les mêmes sous-types que l'homme. Et la manipulation en expérimentation animale des porcs, elle est plus simple que la manipulation des primates. Donc, on s'intéresse beaucoup aux infections respiratoires chez cette espèce. Ce sont des maladies qui sont très, très courantes. Alors, ça dépend toujours des régions et des zones géographiques. Prends des exemples, par exemple en Bretagne, on a un virus qui est le SDRP, le syndrome dysgénésique respiratoire porcin. C'est un virus qui circule beaucoup en Bretagne, donc il est très très fréquent. Par contre, il n'existe pas en Pays de la Loire. Prends un autre virus comme le virus causant la maladie d'Ogeski. Celui-là, il ne circule quasiment plus dans les élevages de porcs domestiques. Et il circule toujours en Europe de l'Est. Oui, c'est fréquent, mais ça dépend des régions.
Ok, et du coup, tu parlais par exemple de l'influenza, tu disais que c'était les mêmes sous-types que pour l'homme. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une transmission possible du porc à l'homme ou pas ?
Oui, on peut voir des caractères zoonotiques, surtout pour l'influenza. D'ailleurs, en 1988, si je ne me trompe pas, il y a eu une femme qui a été tuée par un virus de la grippe porcine, et on a aussi noté plusieurs cas d'infection. En 1998, il y a eu une épidémie aux USA. En 2009, on a H1N1 qui a fait aussi une épidémie. C'était un réassortissant. On pense qu'il a des origines de la grippe porcine humaine et aviaire. Donc oui, on a des aspects zoonotiques. Ces maladies respiratoires peuvent avoir beaucoup d'impact, d'intérêt de les étudier. Donc, on sait bien que ça peut affecter le bien-être des animaux, en augmentant la mortalité chez les animaux, en menant à un retard de croissance et par la suite baisser les revenus des éleveurs et à rendre la tâche des vétérinaires, notamment la vaccination, beaucoup plus complexe. Et aussi, ça nous pousse à utiliser des antibiotiques, ce qui peut augmenter le coût des traitements et poser le problème des antibiorésistances.
Okay, donc en fait, ouais, finalement, il y a un intérêt multiple à s'intéresser à ce genre de maladie. Donc les maladies respiratoires, rapidement évoqué quelques virus, mais elles peuvent être causées par plusieurs types de pathogènes. Il y a aussi des bactéries ou même des parasites, non, qui peuvent causer des maladies respiratoires.
Exactement. Donc parmi les infections respiratoires, on peut trouver les infections respiratoires parasitaires causées par des agents comme les métastrongles. On peut trouver des infections aussi bactériennes, comme la pastérella, la mycoplasme. On a également les infections virales. Donc moi, dans mon sujet, je m'intéresse plutôt aux infections virales, dans mon sujet de thèse. La grippe porcine, le virus du syndrome dysgénésique respiratoire porcin, le coronavirus porcin, le circovirus. On a plusieurs types de virus respiratoires.
Ok, donc là, tu as un peu prononcé le mot magique, tu as prononcé le mot coronavirus.
Coronavirus, ouais.
On en entend beaucoup parler en ce moment. Donc il y a un des virus que tu étudies qui est de cette famille-là.
Non, pas du tout. Moi, je travaille uniquement sur la grippe porcine et sur le virus du syndrome dysgénésique respiratoire porcin. Le coronavirus, non. évoqué dans ma biblio un petit peu quand j'ai démarré ma thèse, mais je ne travaille pas directement dessus.
En fait, si on voit des symptômes de maladies respiratoires chez les porcs, à première vue, on ne peut pas forcément savoir si c'est causé par une bactérie, un virus ou un parasite. C'est peut-être, ils ont des symptômes un peu similaires.
Les symptômes sont souvent similaires. Bah, après, on peut toujours voir des fièvres qui sont pour certains pathogènes et non pas pour d'autres. Ça dépend aussi du temps de l'infection. Et souvent, on voit des pathogènes qui sont combinés. Donc, le cas le plus fréquent, c'est vraiment des co-infections. C'est pourquoi l'intitulé de ma thèse, c'est co-infections respiratoires chez le porc. Souvent, on les trouve mélangés. Donc, on ne peut pas vraiment savoir quel pathogène est vraiment la cause d'une infection respiratoire.
Alors, avant de parler de ces co-infections, parce que ça a l'air d'être un phénomène intéressant, tu peux nous parler un peu plus donc, de tes deux virus d'étude. En fait, ils n'ont pas les mêmes cellules cibles, c'est ça ?
Ça, exactement. Donc, on sait bien que le virus qui cause la grippe porcine, le virus de l'influenza, donc ça, c'est un virus qui appartient à la famille des Orthomyxiviridae. Donc, c'est un virus qui est enveloppé à ARN. Il y a plusieurs types. Je les ai déjà cités, c'est l'H1N1, H3N2, H1N2. Et il infecte les porcs dans le monde entier. Donc, il a plutôt un caractère cosmopolite. Et il infecte, tu viens de le dire, les cellules épithéliales. Il a des symptômes classiques de la grippe. Fièvre, toux, perte d'appétit, difficultés respiratoires. Et souvent, on voit les porcs guérir au bout de 7 à 10 jours. Donc, il n'a pas vraiment un taux de mortalité qui est très, très élevé. Cependant, c'est une maladie qui peut se transmettre à l'homme, comme on a vu dans certains cas. Concernant le deuxième virus, qui est le virus causant le syndrome dysgénésique respiratoire porcin, connu chez les vétérinaires, la maladie de l'oreille bleue, un virus plutôt qui est ARN aussi, donc il n'a pas d'ADN dans son génome, c'est un virus enveloppé et qui est très très présent en Bretagne, comporte deux génotypes, donc on a un génotype qui circule beaucoup en Amérique du Nord, en Asie, en Europe de l'Est. Nous, en France, on a plutôt le génotype 2 qui circule en Bretagne et qui a une prévalence plutôt de 85%. Ce virus-là, il n'infecte pas les cellules épithéliales comme la grippe porcine, il infecte plutôt les macrophages alvéolaires. Concernant les symptômes, on voit plutôt des troubles de reproduction chez les truies, des avortements, des mortinatalités. Là aussi, les syndromes classiques, la fièvre, anorexie, pneumonie. Et bien sûr, on voit les oreilles bleues.
D'accord, donc ça rend vraiment les oreilles bleues alors.
Il faut juste ajouter qu'on n'a pas vraiment des études qui confirment que ce virus peut se transmettre à l'homme.
Et donc du coup, les cellules cibles, en fait, c'est... Par quel mécanisme le virus il se rend spécifique de certaines cellules ? C'est dû aux protéines auxquelles il peut s'accrocher à leur surface ?
Donc, on sait bien que chaque virus a besoin d'adhérer à une cellule, contrairement aux bactéries qui se multiplient sans vraiment avoir le besoin de la présence d'une cellule hôte. Donc, le virus, il adhère plutôt à une cellule. Et il a besoin certains récepteurs pour s'accrocher. Et il faut que ces récepteurs correspondent bien aux antigènes qui présentent sur la surface de son enveloppe. Donc, c'est ce qui explique vraiment la spécificité de chaque virus. Par exemple, si on prend le virus du SDRP, il adhère uniquement aux cellules présentant un récepteur qu'on appelle le CD163. Ces récepteurs sont présents uniquement chez les cellules immunitaires, comme les macrophages alvéolaires, ce qui explique pourquoi il n'est pas capable à infecter les cellules épithéliales, comme l'influenza.
Donc du coup, toi tu étudies deux virus qui ont des cellules cibles différentes, et pourtant tu t'intéresses quand même à la co-infection, donc les cas dans lesquels les porcs ont été infectés par ces deux virus-là. Et donc tu pars du principe que... Le fait d'être infecté par l'un puis par l'autre, ça peut influencer en fait le cours de la maladie. Et comment, enfin, qu'est-ce qui te fait penser qu'il peut y avoir une influence vu que justement il y a des cellules cibles différentes, ça a l'air d'être, ils ont l'air d'avoir des mécanismes d'action un peu différents.
Oui, ben en fait, normalement, en général, quand on a une interaction ou une interférence entre deux virus, on voit plutôt que l'interaction arrive entre deux virus qui infectent la même cellule. Par contre, dans le cas de mes deux virus, on n'a pas ce cas. cette interférence se représente par une compétition pour les récepteurs. Le premier virus qui arrive, qui adhère sur les récepteurs, empêche le deuxième d'adhérer, ce qui n'est pas le cas dans notre problème, dans nos co-infections, pardon. En regardant les études qui ont été menées, on a quand même une étude qui montre une certaine inefficacité d'un vaccin contre l'influenza en présence du deuxième virus, le SDRP. On se pose la question, est-ce qu'il y a vraiment une certaine interférence entre ces deux-là, même s'ils n'arrivent pas à infecter la même cellule? Ensuite, il y a eu beaucoup plus d'études in vivo qui évaluent la co-infection par ces deux virus. Les chercheurs ont remarqué qu'il y a une baisse, une augmentation de la réplication du premier virus en présence de l'autre. Ils ont aussi remarqué des modifications dans les signes cliniques, dans la réaction inflammatoire. Vraiment savoir cette interférence, elle a lieu à quel niveau. Moi, je m'intéresse vraiment à savoir où cette interférence entre ces deux virus qui n'infectent pas la même cellule aura lieu, quel niveau.
Est-ce qu'il y a une voie de signalisation qui permet de justement dire à un premier virus quand il arrive, enfin au deuxième virus quand il arrive, le prévenir? Est-ce qu'il y a des traces chimiques, moléculaires ou quelque chose comme ça qui font qu'il est au courant finalement qu'il y a eu déjà l'infection par le premier virus et ça va modifier son mécanisme d'action en fait?
Parmi les hypothèses qu'on a mis, en fait, on pense que cette interférence entre ces deux virus ne va pas avoir lieu sur les récepteurs. On pense qu'il y a un autre phénomène. Et on lie ça au fait de la production des interférons par la cellule. On sait bien qu'un virus, en infectant une cellule, il va pousser cette cellule à libérer des cytokines, comme les interférons, qui vont aller et alerter d'autres cellules pour produire des molécules antivirales et venir lutter contre cette infection virale. Premier virus, en arrivant, en stimulant ses propres cellules, ses cellules cibles, les incite à produire ces interférons et ces molécules antivirales, ce qui va plutôt affecter le devenir d'une infection par l'autre virus.
Donc ces interférons dont tu parles, ils font partie de la batterie de la réponse immunitaire.
Exactement, c'est une façon des cellules pour lutter contre la réponse immunitaire.
Donc si on s'intéresse un peu plus concrètement au protocole que tu as mis en place pour étudier ces co-infections, est-ce que tu peux nous dire rapidement quel type d'expérience tu as fait pour mieux comprendre en fait comment s'influencent ces deux virus?
C'est le moment où j'aime bien parler de ma thèse. Alors moi, j'ai fait des essais plutôt in vitro et ex vivo. Moi, je travaille pas en in vivo. Donc on est parti chercher les cellules cibles de chaque virus. Je travaille sur une souche épithéliale qui provient de trachées de porc. Et je fais des combinaisons avec mes deux virus. J'infecte les cellules épithéliales avec les deux virus. J'infecte aussi les macrophages alvéolaires. Je travaille aussi sur un modèle qui est un peu spécial, ce qu'on appelle les tissus fines, ou en anglais les precision cut lung slices. Donc on ira chercher des poumons, on les coupe en tranches fines et en plus ensuite on les garde vivantes en conditions de laboratoire pour pouvoir après les infecter avec nos deux virus et aller suivre la propagation des virus dans le tissu, évaluer également la mort cellulaire. On sait que l'influenza, il va et notre tapis cellulaire. Si jamais on met le SDRP avec, qu'on a toujours cette mort cellulaire avec la présence du deuxième virus. On essaye aussi également de regarder l'expression des gènes, notamment les gènes qui codent pour les différents interférents et les protéines antivirales. Dans mes essais aussi, j'ai réussi à inactiver l'un des deux virus et le mettre aussi en présence avec un deuxième virus. C'est toute une série d'expériences où on essaye de regarder l'effet temps entre les deux virus. Si jamais les deux virus n'infectent pas la cellule en même temps, est-ce qu'on aura le même résultat s'ils viennent et l'infectent en même temps? En changeant l'ordre des deux virus, on va aussi avoir le même résultat. Est-ce qu'en changeant les souches, on va essayer d'utiliser différentes souches pour voir si l'effet de souche aussi jouait sur le devenir des co-infections? Donc ça, c'est en gros mes essais et mes travaux de thèse.
Juste pour revenir un peu sur les types de protocoles, donc tu as parlé de in vitro et de ex vivo. Alors c'est vrai qu'on entend souvent in vitro, in vivo, c'est un peu l'opposition classique on fait, mais le ex vivo, ça consiste en quoi ?
In vitro, on sait bien que c'est l'activité qu'on peut mener sur des cellules ou des micro-organismes en dehors de leur contexte naturel. Ça veut dire dans des conditions qu'on peut contrôler au laboratoire. In vivo, ce sont des expériences qu'on va mener sur des animaux vivants, sur du vivant. Ex vivo, c'est une technique, une expérimentation entre les deux. C'est quand on travaille des cellules ou des tissus qui sont extraits directement d'un organisme vivant et après on va aller les manipuler au laboratoire.
Et donc les petites tranches de poumons là dont tu nous parlais avant, au moment où tu les manipules, elles sont encore un peu vivantes en fait, elles réagissent toujours un peu de la même manière que quand elles sont dans un poumon vivant.
Exactement, parce que après les avoir coupées, on les met dans un milieu qui est riche en certains nutriments et on les met dans un incubateur qui mime la température corporelle du porc et on réussit à les garder vivantes jusqu'à à peu près 10 jours. Et ça, c'est vraiment un modèle qui nous permet d'effectuer des expérimentations sur nos co-infections sans vraiment aller infecter des porcs vivants et tuer des porcs juste pour des expériences.
Ok, donc finalement, oui, c'est un bon compromis. Et maintenant qu'on parle beaucoup du bien-être animal, de l'expérimentation animale et tout ça, ça permet peut-être de répondre à cette attente sociétale.
Ça, l'avantage éthique de toutes les expérimentations menées en ex vivo, ouais.
Tu as fait toute une série de protocoles où tu infectais d'abord par un virus, puis par l'autre. Tu as changé l'ordre, le délai entre les infections pour être bien sûr que... Enfin, tu savais exactement à quoi était dû... la différence entre les effets que tu as observés. Qu'est-ce que tu as obtenu finalement comme grand résultat ?
Sans vraiment rentrer dans les détails de toutes les expressions des gènes et les trucs qui n'intéressent vraiment que les virologistes, on a bien découvert que les deux virus n'infectent pas vraiment la même cellule. Ils présentent une certaine interférence qui peut vraiment altérer la réponse immune du porc, qui peut changer son comportement envers l'une de ces deux infections. Et on a aussi découvert, en changeant les délais, que cette interférence, elle est moins importante en augmentant le délai entre ces deux infections. Donc, si jamais on est dans des conditions réelles, on a une infection d'influenza chez le porc, si jamais le SDRP il arrive en retard, on voit moins cette interférence, alors que si jamais ces deux virus infectent le même porc en même temps, c'est le moment où on a vraiment une interférence très importante entre ces deux virus.
D'accord. Et du coup, concrètement, ce genre de résultat, ça peut avoir quelle application après en termes de vaccination ou d'autres moyens de lutte contre ces maladies ?
Très, très bonne question, Hélène. Et d'ailleurs, c'est une question standard de tous les gens qui ne sont pas vraiment dans le domaine. Le but de cette étude, c'est vraiment de travailler sur l'adaptation des protocoles de vaccination. On tire comme conclusion de mes travaux, c'est qu'il est vraiment très, très important de connaître le statut d'un troupeau avant de mettre en place tout protocole de vaccination, parce qu'on a souvent tendance à chercher la présence ou l'existence d'un seul pathogène pour pouvoir vacciner contre ce pathogène en ignorant vraiment la probable circulation ou la probable présence d'un deuxième pathogène. On s'est posé une question à la fin de nos études, est-ce que vraiment on peut avoir l'impact des souches vaccinales qu'on est en train d'introduire par la vaccination sur une infection par un autre virus qui existe déjà et qui circule dans notre troupeau. Donc ça, c'est plutôt l'application de nos travaux qui est plutôt sur l'aspect de la vaccination.
Bon, c'est super. Bon, j'imagine que du coup, la recherche, ça prend du temps, donc ça va peut-être pas bouleverser tout de suite les protocoles de vaccination. Ça se fait sur le long cours, mais... Est-ce que, donc du coup, toi, tu es allé voir un peu des élevages ou tu as vraiment travaillé derrière la paillasse majoritairement ?
Alors moi, dans le cadre de ma thèse, non, on n'a pas été dans les élevages. On a été dans pas mal d'abattoirs pour optimiser les poumons des porcs qui sont déjà abattus dans les abattoirs. J'ai participé à une étude in vivo qui a eu lieu avec ANSES, nos collègues de l'ANSES. Donc j'ai également récupéré des poumons provenant de porcs qui faisaient partie d'une expérimentation in vivo. Et non, on n'a pas été vraiment dans les élevages pour suivre.
Ok, bon bah merci, en tout cas c'était super intéressant. C'est vrai qu'on ne soupçonne pas ce principe de co-infection, quoi, que la manière dont une maladie, un pathogène nous affecte, ça peut être influencé par le fait qu'on était affecté par un autre peut-être juste avant, donc c'est fascinant. Si on sort un peu des questions scientifiques, là on sort d'une période de confinement, toi... À titre personnel, donc t'es Libanais, mais t'es resté en France pendant le confinement. Comment tu l'as vécu cette période ?
Ben en fait, je suis resté ici. J'avais le choix soit de retourner au pays d'origine ou de rester ici. J'ai décidé de rester ici parce que on sait pas trop comment ça va être avec les restrictions de voyage et tout. Et pour reprendre l'activité pour la thèse après le déconfinement, ça pourrait être compliqué. Donc je suis resté ici. J'ai profité du confinement pour avancer sur ma rédaction de thèse. Pas d'ailleurs soumis une revue. Voilà, j'ai profité pour avancer sur l'adaptation des protocoles pour les manips qui me restent et en profitant d'avancer au maximum sur mes articles.
Bon, bah, tant mieux, ça n'a pas l'air de t'avoir trop affecté finalement dans ton travail.
Non, ça va.
Bon, et du coup, de manière un peu plus large, donc depuis que tu es arrivé en France pour conduire tes recherches, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris sur la manière dont on conduit la recherche ici que tu n'aurais pas imaginé ou qui ne se passe vraiment pas pareil au Liban par exemple ?
Qui m'a surpris, peut-être pas, mais qui m'impressionne un petit peu, c'est vraiment la qualité des laboratoires et des équipements qu'on peut trouver dans les laboratoires de recherche. Je parle des laboratoires de l'école Veto qu'on a à Nantes. Et c'est un truc qui est très, très important parce qu'on assure vraiment un cadre de travail qui est très, très important pour l'étudiant sur place. Et on a vraiment de la chance de tomber sur des laboratoires de ce type. Vraiment oublier tout ce qui est respect de l'éthique de la recherche et vraiment qui est sur la norme et les lois qui gèrent vraiment et qui règlent bien les activités de la recherche.
Super, voilà qui va bien flatter ton unité de recherche. D'ailleurs, je crois que j'ai pas cité son nom, mais c'est l'unité donc BioEPAR, biologie, épidémiologie et analyse de risque en santé animale. Bah, merci beaucoup Georges pour cette petite interview, c'était vraiment intéressant et puis à bientôt.
C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir écoutée. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter pour toutes nos actualités, ainsi que sur labodessavoir.fr pour retrouver cette émission et les précédentes. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission inédite du Labo des Savoirs et merci de nous avoir écoutés.
Your grave, 'cause I'm Let's win it all, we be the bubble. See you for some. projet 101.5 FM. Walking in the midnight sun.
Get you.